La libre antenne de Max, c'est ça. Tous les soirs, de 22h à minuit, un homme veille pendant que le monde s'endort. Dans la pénombre du studio, il guette, casque sur les oreilles, prêt à bondir au moindre appel. Cet homme, c'est Max. Bienvenue dans sa libre antenne sur RMC Code.
Oh là là, ça me fait penser à Fort Boyard. Qu'est-ce que j'aime cette introduction. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes en live, en direct dans les studios d'RMC Code. Il est 22h et c'est reparti pour la libre antenne encore ce soir avec l'équipe au grand complet qui est là. Bonsoir Yanis.
Bonsoir.
Bonsoir Juliana.
Bonsoir.
Bonsoir Gabi.
Salut.
Ils sont en forme ce soir. On va aller vite parce que là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est rare, hein. C'est bien, je crois que ça va être la première émission depuis un an et demi où je mets pas 25 minutes à faire une introduction, à parler de la pluie, du beau temps, des choses inintéressantes qui me font gratter 25 minutes avant de commencer l'émission. Ce soir, on va parler des ovnis, de la vie extraterrestre, plus peut-être si infinité, avec un chiffre du soir d'abord, Gabi, qui était, c'est 60%, c'est ça, des Français.
Ouais, pense qu'il y a une vie ailleurs.
Qu'il y a une vie ailleurs. Alors, est-ce que c'est une vie avec des petits gris, des petits bonhommes verts, des grands bonhommes verts, ou simplement de la vie extraterrestre, des bactéries, ou je ne sais quoi? On va en parler, évidemment. C'est des sujets qui, comme d'habitude, interpellent, passionnent les gens, et comme vous le savez, il y a dernièrement, on a traité du sujet aux États-Unis de Donald Trump, qui avait promis lors de sa réélection qu'il allait déclassifier quelques documents OVNI, et c'est ce qu'il a fait. Depuis, ça fait évidemment tache d'huile un petit peu partout, à la télé, sur les réseaux sociaux. Et là, tout de suite, je me suis dit, bon, je peux pas inviter les frères Bogdanov, malheureusement, peut-être que de là où ils nous écoutent ce soir, mais j'avais envie d'inviter un ami que je connais depuis très longtemps, Bob Belanca. Bonsoir Bob.
Salut.
Oh là 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 là, si on m'avait déjà le kiff de se retrouver tous les deux à faire de la radio.
Ah, ça nous remonte à loin.
C'est phénoménal, hein. Quand les gens me demandaient en direct, mais c'est le Bob de Bob, Isa et Martin, je disais, oui, c'est ça, Bob, Isa et... Non, mais ça fait du bien, hein.
Ouais, tu sais que c'était il y a 25 ans, hein.
C'était il y a 25 ans. Incroyable. Mais bon, ça, en pensant que c'était hier.
Oui, c'était hier. Je dirais avant-hier.
Avant-hier, j'allais te le dire, tu m'enlevais de la bouche. Ouais, je voulais inviter Bob parce qu'effectivement, nous, on a continué à se croiser quand même après le départ donc de la radio, hein, Fun Radio. Ouais. On a continué à se côtoyer et je fais le petit résumé très rapide, hein. Moi, j'ai travaillé à Ado FM à un moment donné en faisant une saison les matinales. Ouais. Quand je suis parti, j'apprends que toi, tu vas faire le soir. Ouais. Tu fais de la libre antenne. Ouais. Et un jour, on me dit, tiens, c'est marrant, Bob, il parle de plus en plus des ovnis, des extraterrestres, des choses comme ça. Donc je t'avais écouté à l'époque. Ouais. Et une fois que le projet s'est terminé, ouais, j'ai appris que tu avais monté une chaîne de télé, une chaîne de radio. Tu vas nous raconter, ouais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Là, je l'ai résumé très rapidement, mais en 2013, surtout. Alors déjà, Ado FM, c'est quoi l'histoire?
Bah, en fait, j'étais à WeFM avant, tu sais.
Oui, WeFM, bien
et
sûr.
En fait, j'en ai marre. Je veux partir de WeFM et je dis à tout le monde que je veux partir. Et là, mais une heure après, les mecs d'Ado m'appellent en me disant, voilà, on est intéressé, on voudrait te confier le soir, le talk show du soir.
Ah ouais.
J'ai dit, moi d'accord, mais je fais pas de foot, je fais pas de cul. Donc voilà, parce que le cul je l'avais fait, le foot je l'avais fait sur Europe 1 Sport, on avait travaillé.
Exact. Voilà. Et bien c'est vrai, Europe 1 Sport, on l'a fait ensemble, bien sûr. Putain, c'était dingue.
Ah
bien sûr.
Et en fait, il me dit, bah écoute, fais ce que tu veux, démerde-toi. Et là je fais merde.
Oh.
Et je regarde ce qui se passe aux États-Unis et là je vois un mec qui fait le soir à la radio qui s'appelle George Noury. Alors à l'américaine, c'est-à-dire que tu as les grosses bacchantes, tu vois le mec à 60 piges. Et je regarde les scores et je vois que le mec est leader sur 460 radios aux États-Unis.
Incroyable.
Tu sais, ils sont en syndication là.
Ouais, c'est ça, parce qu'avec le décalage, fait qu'on peut pas toujours être en direct. Donc après, on rediffuse, on produit.
Exactement.
Ouais, ouais.
Et donc, et je vois les sujets. Le mec parle d'ovnis, d'extraterrestres, de machin.
De paranormal.
De paranormal. Et donc, j'appelle le producteur américain. Et le producteur américain, il me dit, moi, la France, j'ai rien à foutre. Adapte ce que tu veux.
Ah oui.
Et il me dit simplement, méfie-toi. L'armée, tu crains rien. Les politiques, tu crains rien. Méfie-toi simplement des labos pharmaceutiques.
Ah oui.
Il dit, ça, c'est le plus dangereux. Touche pas. La Big Pharma, si tu veux.
Ah oui.
Ils ont des flingues.
D'accord. Donc, ouais. Ouais, c'est un amant, on se rend pas compte. Mais oui,
à l'époque, c'est un vrai pouvoir.
Oui,
quoi,
bien
tu
sûr.
Ce que je veux dire. Et donc,
un vrai lobbying.
Je parle là-dessus, sauf que moi, il y a 14 ans, quand je crée mon émission, je me retrouve, je vais à la Fnac. Et là, il y a un rayon de livres qui fait 1 mètre sur 2.
Oui, c'est ça. Il y a rien quasiment.
Alors qu'aujourd'hui, il y en a des tonnes.
C'est ça.
Et là, je dis à mon collaborateur Mathieu, je fais, on est dans la merde.
Ah oui.
On a vendu 3 heures de talk show, pas une musique, pas un ziz.
Ah, pas une musique, rien.
3 heures à l'américaine, 3 heures de talk show, et j'y connais rien.
C'est un sujet qui te parlait ou vraiment pas du tout? Est-ce que t'étais curieux de ça?
Non, mais j'adorais.
Ou comme moi à l'époque quand je recevais les Bogdas, c'était plus pour rigoler, quoi.
Mais exactement. Et puis je me dis, je vais faire une première émission. Donc on arrive à c'était le début d'Internet en plus, rappelle-toi. Hein, donc il y a 15 piges. On commence à trouver 2-3 mecs et je fais l'émission. Je suis épuisé, 3 heures de talk-show non-stop. Si tu veux, il y a que les écrans de pub, tu vois, qui coupaient un peu, qui me laissaient respirer.
Toi, en plus, tu faisais les mornings, t'avais des pauses pub de 10 minutes, ouais, des disques. Là, pour l'instant, enfin, 180 minutes, c'est chaud.
Hein. Incroyable. Et je fais les 3 heures et je me dis putain, je crois que je tiens quelque chose, quoi, quand même, tu vois. Et puis
parce que tu sens que ça appelle déjà, il y a déjà
tu sens que
il y a de l'excitation autour de ça.
Très vite, on fait des enquêtes et tout, on voit que ça fonctionne, si tu veux. Puis il y avait personne qui s'occupait de ces sujets. Donc en fait, du coup, les éditeurs, bah, ils nous envoyaient des bouquins, on avait des gens. Et
vous avez une fenêtre pour s'exprimer là-dessus.
Je faisais venir n'importe qui. La gonzesse me disait, je lis l'avenir en couscous. Non mais j'ai vu Lana faire l'avenir dans le couscous, si tu veux. Et on le faisait.
Couscous merguez,
voilà. Ou... couscous pour l'instant. Et on s'amusait, tu vois.
Ouais,
et
en fait, t'as pris ça un peu à la rigolade.
Sauf que je me suis piqué au jeu.
Ouais. Tu vois ce
que
je veux dire. C'est en fait, ça. Et puis t'as vu qu'il y a des gens qui prenaient ça très au sérieux.
Et puis surtout, j'ai rencontré des mecs incroyables.
Ouais, c'est ça. Qu'au début, t'es tombé sur des illuminés, mais tu aperçois qu'il y a quand même des gens à un moment donné, des scientifiques, des mecs qui ont fait des études,
des mecs de l'armée, des mecs militaires, des scientifiques, des astronomes.
Mais est-ce qu'ils osent venir au départ?
Ah oui, bien sûr.
Dès le départ.
Oui.
Parce qu'ils ont une possibilité de s'exprimer là-dessus.
Bah, c'est-à-dire que personne n'en parlait. Donc fatalement, il y avait une tribu.
Mais des fois, on n'a pas le droit d'en parler. C'est que c'est les militaires, tout ça, ils osent pas en parler. Ils savent des choses, mais ils n'osent pas dire.
Alors souvent, tu as des militaires qui sont plus militaires.
D'accord.
Qui
ont été en retrait, mais qui sont plus en activité.
Voilà, qui sont plus secret défense et qui peuvent parler. Donc on est allé là-dessus et je me suis éclaté pendant une saison.
Ouais.
On a cartonné, mais le problème, c'est qu'on venait. On faisait venir des vieux sur l'antenne.
Ouais, les gens plus âgés, ça correspondait pas à la cible d'Ado FM.
Et tu sais très bien que le soir, il sert au morning. Hein, c'est-à-dire qu'il se couche avec, il faut qu'il se réveille avec.
Bien sûr.
Sauf que les mecs, ils se réveillaient pas avec Ado, ils se barraient. Ils Ado, ils sont gentils, mais bon, sur la musique de
il se levait le matin, il est là, X5 ou pas, là?
C'est un peu ça.
Donc du coup, ça s'arrête malheureusement.
Et là, j'appelle Pierre Bélanger, mon ancien patron de Skyrock.
Ouais, le propriétaire.
Voilà. Et Pierre me dit, écoute, avec ce que tu fais, voilà, je t'envoie un lien, regarde. Et là, Pierre m'envoie le lien d'un mec qui a monté une chaîne de télé et de radio par abonnement aux États-Unis qui s'appelle The Blaze TV. Le mec a 400 000 abonnés. Et je me dis, putain, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Sauf que on est le 17 juillet. Et mon contrat s'arrête le 31 juillet et le 3 août je pars en Thaïlande. Et entre le 17 juillet et le 31
juillet,
je dis à tout le monde, voilà, et je fais tout le marketing. Hein. Je me mets une barre sur la gueule, je fais censurer.
Ah, tu te donnes 15 jours avant de partir en vacances pour créer ta chaîne de télé comme aux États-Unis.
Sauf que je fais la pub sur l'antenne de Ado.
Ah putain.
Et je suis producteur, ils n'ont pas le droit de me couper l'antenne.
Ah oui.
Donc voilà, sinon ils payent un max de blé. Donc je me fais sur les réseaux sociaux, c'est début, une bande sur la gueule en disant censuré. Mmh. Et je dis à tout le monde, je suis censuré, on veut plus de moi. J'ouvre un PayPal, mettez des sous dessus, en septembre j'aurai une chaîne.
Putain.
Sauf que j'ai pas un micro, j'ai pas une table, j'ai
donc
pas de locaux.
Ça t'a aidé à sponsoriser un peu le truc, quoi.
Et en fait,
à payer.
Sauf qu'il a fallu que je trouve des locaux, des studios, enfin tout la totale.
Bien sûr.
Et là, j'appelle tout le monde, tous les copains de Skyrock, de Fun, filez-moi une console, filez-moi des micros, etc. Et je pars le 3 août avec femme et enfant, j'ai loué en Thaïlande, tu vois. Et donc je dis à mon frère qui était pas en vacances, je dis fais les travaux et filme-moi tous les jours des photos et je vais les mettre sur internet en disant voilà, ça avance.
Hein.
Et j'avais dit le 2 septembre on sera à l'antenne. Je rentre le 20 août, il y a les sépins. Mais il n'y a pas une table.
Oh,
on a pas reçu les micros, on n'a rien. Et je me dis, mais tiens, c'est hallucinant. Et malgré tout, chaque jour, je recevais un truc. Mais il a fallu que j'achète des ordinateurs, que j'achète des tables pour que les gens bossent. Enfin, tu vois, créer un bureau, quoi.
Créer des équipes et tout. Ouais.
Et donc, on arrive, je reçois la console, j'ai les copains qui viennent câbler, donc on arrive. Et le 2 septembre, on n'est pas prêt. Et je dis, c'est pas grave, c'était le début de Facebook, je dis, c'est pas grave, les gars, on sera prêt le 4. Le 4, j'ouvre l'antenne et au bout d'une heure, Le site explose.
Ah ouais.
75 000 personnes.
Putain.
Se sont connectées. Et on fait plus d'audience comme ça. Hein. 75 000 personnes. Sauf qu'on avait un tuyau pour 3 000 personnes.
Ouais,
quoi,
donc si ça a bugué, ça a sauté toutes les deux minutes. Ouais.
Donc là, jure.
T'étais pas équipé.
Je suis quelqu'un de calme.
Ouais.
Je jure. Et les mecs arrivent à me dépatouiller ça. Et l'aventure est partie. Sauf qu'attends, personne n'avait créé de chaîne par abonnement. À part Canal+.
C'est vrai que toi, c'était payant, c'est abonnement.
Allô, monsieur le trésor public, on est taxé à combien? On sait pas.
Ouais.
Ça n'existe pas. Bon, bah écoutez, on va faire 20% TVA, alors que Canal, c'était 5, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on est à 2, hein, tu vois.
Ah
bon,
oui, d'accord. Bon. Okay.
Donc pendant des années, on a payé 20. Et attends, personne faisait de l'abonnement. Ça veut dire qu'en fait, parce que moi, quand tu t'abonnais, il fallait que ça t'ouvre des accès et que le mois d'après, ce soit prélevé. Sauf que le mec à qui je confie le truc, le deuxième mois, il prélève pas.
Ah oui,
donc il va y avoir un problème si tu
crées
pas
de deuxième mois. Évidemment.
Donc tout ça, il a fallu que je crée des CRM. Tu imagines pas le truc.
C'est extraordinaire.
J'ai tout créé. Ce qui est paraît logique aujourd'hui et simple sur tous les sites.
Mais bien sûr,
je l'ai créé.
Voilà. Voilà. Et ça s'appelle comment la chaîne donc
BTLV.
Et ça veut dire
Bob vous dit toute la vérité.
Ah oui,
que j'ai transformé après en broadcast, télévision, live vidéo parce que j'ai failli vendre les Américains.
Ouais.
Et eux, il leur fallait un acronyme qui.
Alors on va voir les auditeurs évidemment parce qu'on va parler avec toi de plein de choses. Mais juste, tu traites de quoi en dehors de la vie extraterrestre, des ovnis, du paranormal.
Mystère des pyramides.
Ah oui.
Conscience, état modifié de conscience, vie après la mort. Qu'est-ce que tu peux avoir? Les artefacts, un peu curieux, la médiumnité, la spiritualité, voilà, le voyage astral, tous ces trucs-là. Quoi.
Alors évidemment, je disais en introduction, avant qu'on ait les premiers auditeurs qui vont appeler, hein, 06 1980 1990 par WhatsApp, vous laissez vos numéros de téléphone si vous voulez parler avec Bob, évidemment. Il y a ces fameuses déclassifications qu'a fait Donald Trump qui, voilà, bah, pour toi, c'est que du...
C'est du pain béni.
C'est du pain béni, voilà. C'est extraordinaire parce que forcément, on voit plein de vidéos qui traînent de partout. Ouais. Est-ce que toi, déjà, les vidéos qu'on a pu voir, est-ce que tu les connaissais? Est-ce que tu en as découvert? Oui. Est-ce que tu as scotché sur certains truc?
Alors moi je connais ça depuis très longtemps parce qu'en fait moi je suis le dossier. En fait ce qui s'est passé c'est en 2017 qu'il s'est passé un vrai bouleversement. En 2017 si tu veux il y a un mec qui s'appelle Lou Elizondo qui était le patron du Black Programme au sein du Pentagone. C'est-à-dire que c'est une officine pas officielle qui reçoit des sous du gouvernement américain mais qui n'est pas officielle.
D'accord.
Et ce mec-là dit putain je vois trop
quand
de choses.
Quand tu dis pas officiel c'est-à-dire qu'on communique
c'est
pas sur qui...
C'est une caisse noire.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Donc en fait imagine-toi à RMC ici là à Gold, il y a un petit bureau où il y a un mec qui fait des émissions, personne ne le sait, et il est financé par et il fait des émissions sur la NSA.
D'accord, okay,
voilà.
Très bien, okay.
C'est un truc secret. Et ce mec-là dit, je vois trop de choses, je ne peux pas laisser ça, il faut que le public sache quoi, ce que je vois, ce que je vis. Est-ce que le mec, ancien marine, se décorait comme ça, enfin, tu vois.
Parce que lui, il a accès à toutes les vidéos qui sont top.
Ah oui, c'est le patron, d'accord. Du Black Programme, tu vois.
D'accord.
Et il reçoit des vidéos de l'US Navy.
D'accord.
Et il reçoit des vidéos qui ont été filmées, à partir d'un navire qui s'appelle l'USS Nimitz. Et là, on voit des F-18 suivre des objets qui font des transmédias, c'est-à-dire qu'ils passent du ciel à la mer, ça démonte, ça redescend.
À une vitesse vertigineuse.
Ça se joue des trucs, etc. Et donc lui, il balance tout ça. 2017, Leslie Kean, qui est une journaliste du New York Times que j'ai reçue, avant même la déclassification, et avant 2017, qui est très active là-dessus, fait sortir ça dans le New York Times en disant il y a une officine secrète qui...
Ah là, elle balance. Ouais,
elle balance. Sauf que, en fait, ce qui a surtout perturbé les Américains, c'est pas tant le fait qu'on étudie les ovnis, c'est qu'il y avait un black programme. Ça veut dire que les Américains sont dit il y a de l'argent du contribuable, on n'est pas au courant qui finance une officine.
Putain,
donc
ouais.
Ça les fait chier. Mais des vidéos sortent. Donc toutes ces vidéos, je les sais. Et depuis, moi j'ai tous les mecs du Pentagone, j'ai tous les amis contre-amiraux comme ça, avec des étoiles partout, et je fais des émissions. Donc je savais ce qu'allait se passer, et de toute façon, c'était inévitable. Parce qu'en fait, une fois que t'as ouvert la porte,
ouais, bah après,
tout sort.
Oui, voilà. Bien sûr.
Et j'ai eu George Knapp, j'ai eu Jeremy Corbell, tous les grands américains ufologues. Quoi.
Alors, est-ce qu'il est vrai d'ailleurs, après, Juliana, tu me diras, pour accueillir les premiers auditeurs, n'hésite pas, puis s'il y a des gens qui veulent juste poser des questions par ton intermédiaire, Juliana, je te laisse gérer le WhatsApp. Hein, Juliana,
ouais, bien sûr.
Le 06-1980-1990. On va dire que sur toutes les vidéos, moi j'ai toujours entendu dire qu'il y avait 1 ou 2 peut-être % de choses qu'on n'arrivait pas à expliquer, mais que tout s'expliquait.
Alors non.
Est-ce que c'est vrai? Il y a un pourcentage
alors,
par rapport à ça?
En France, on a ce qu'on appelle le GEPAN.
Ouais,
le GEPAN,
oui.
Il faut savoir que c'est un organisme officiel depuis les années 60 qui étudie, qui est accolé au CNES, hein, qui fait partie du CNES, qui à Toulouse étudie le phénomène OVNI. Il y a à peu près entre 2 et 8% en fonction
des années, d'accord, ouais, okay,
d'objets volants non identifiés. Attention, OVNI ne veut pas forcément dire extraterrestre.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que quand on disait ce qu'est de la vie extraterrestre, moi, quand j'en parlais avec les Bogdanov, il y a peut-être des bactéries, des choses qui font que c'est de la vie extraterrestre.
Moi, je pense qu'il y a plus.
Il y a plus que... Ah, bah, on va en parler après. Alors,
je pense qu'il y a plus. Mais en même temps, on n'a aucune preuve aujourd'hui.
Oui.
Mais vu le milliard d'étoiles qu'il y a, les planètes qu'il y a, il y aurait la place perdue, si tu veux, si on était seul. Tu vois ce que je veux dire.
Je donne un chiffre, tu me dis si je me trompe. Hein, c'est quoi? C'est une quinzaine, une vingtaine de milliards d'étoiles dans notre galaxie?
C'est à peu près ça.
Et on dit qu'il y a à peu près 20 milliards de galaxies dans l'univers. C'est exponentiel et ça n'arrête jamais. Quoi,
moi, je suis assez copain, tu sais, avec des astrophysiciens maintenant, parce que c'est devenu mon milieu.
Ouais, bien sûr.
Et je suis assez copain avec Jean-Pierre Luminet, qui est un des mecs qui a été consulté pour Interstellar, par exemple. Ouais. Tu vois, pour le spécialiste des trous noirs. Le mec me dit Bob, arrête de réfléchir. Il me dit, t'es pas capé, t'as pas le cerveau pour ça.
Ouais, c'est ça.
Il me dit, c'est tellement grand ouais. que de toute façon, tu ne peux pas l'envisager. Je dis, Jean-Pierre, je suis fatigué quand tu me parles, j'ai mal à la tête.
Non, mais c'est
tu vois.
C'est un truc de fou. Ouais. Ouais. Il faut mais savoir que d'ailleurs, quand on parle d'une étoile, c'est une planète.
Oui, non.
Déjà, de base.
Non, une étoile, c'est le soleil.
C'est le soleil, voilà, d'accord.
Donc, c'est quelque chose qui brille. Et la planète tourne autour.
Ah oui, d'accord.
Et c'est pour ça qu'il y a les exoplanètes qui permettent. Alors. Là aussi, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire que quand on parle d'exoplanètes, les gens disent ouais, « il y a des planètes comme la Terre ». Non, il y a des planètes qui sont proches d'une étoile. Mais si t'es trop près, tu crames. Si t'es trop loin, t'as froid.
Bien sûr.
Donc il n'y en a pas une encore aujourd'hui qui ressemble
exactement à la
Terre,
nôtre.
Et voilà. Dans laquelle on pourrait vivre, sur laquelle on pourrait vivre. Et de toute façon, si on en trouvait une, c'est trop loin.
Alors revenons un peu sur ce qu'on était en train de dire. Après, on va accueillir le premier auditeur. Tu parlais de 2 à 8% de non. Alors ça veut dire quoi? Donc ces vidéos-là.
On ne sait pas ce que c'est.
On ne sait pas ce que c'est. Ouais. Ça, mais on ne ferme pas le dossier. On essaie. Est-ce qu'il y a des gens qui continuellement. Continue de chercher, un peu comme quand il y a un crime, on ne sait pas, et puis 20 ans après, on se dit, il y a toujours des mecs qui cherchent.
Roswell est un cas sur lequel toutes les gens travaillent encore. Hier, j'ai reçu Jacques Vallée. Ouais. Jacques Vallée, c'est l'homme qui était interprété par François Truffaut dans Rencontre du troisième type.
Ouais.
C'est lui qui a donné toutes les infos à Spielberg pour faire le film.
D'accord.
Voilà, c'est un astrophysicien français, Stanford, etc. Tu peux imaginer le mec, tu vois. Donc quand tu parles avec ce garçon, t'es intelligent. Parce que lui, de toute façon, c'est comme au tennis, tu vois.
Oui, si il te fait monter d'un cran.
Voilà, tu
passes de. Ouais, d'accord,
ces gens-là, si tu veux, travaillent dessus depuis toujours. Et il venait, lui, présenter un livre qui s'appelle Trinity sur un cas qui est arrivé en 1945, alors que Roswell, c'est 47. Et en fait, les ovnis ont vraiment explosé quand le nucléaire est arrivé.
D'accord.
Il y a un lien incroyable entre les ovnis et le nucléaire.
Lequel?
Celui que, c'est une théorie,
oui, bien sûr.
Que les ovnis regarderaient ce que l'on fait sur Terre, parce qu'en fait, tout est lié dans l'univers, que si on fait péter la planète, on va peut-être déstabiliser l'univers. Donc peut-être que ces extraterrestres ou ces entités veillent au grain.
Ah oui.
Tu vois ce que je veux dire?
En ce moment, ils ont beaucoup de travail.
Exactement.
Parce que ce qui se passe en Iran et tout le reste.
Et quand on a eu les premiers essais à White Sands, sur la base de White Sands aux États-Unis, en 45 sur les essais nucléaires.
Ouais.
Et il y avait des observations d'ovnis, déjà.
D'accord.
Donc, voilà.
Bon, c'est passionnant, évidemment, vous l'avez compris, Bob, qui maîtrise. D'ailleurs, je fais une dernière petite précision, c'est que t'es animateur de base, mais maintenant, t'as ta carte de journaliste. Non, mais ça donne une crédibilité
comme quoi,
supplémentaire.
Tout arrive.
Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit jeu pour te rappeler le morning pour pas que tu sois trop déstabilisé? Non, mais c'est génial, c'est passionnant. Donc maintenant, évidemment, c'est ton travail à temps plein. Ouais. Matin, midi et soir, tu ne fais plus que ça et depuis des années. Et c'est absolument passionnant. C'est clair que, regarde, là, c'est là qu'on est des hommes de radio. 20 000, 15 000 minutes, on n'a rien vu passer. Premier auditeur peut-être de cette soirée, Juliana, s'il y en a.
On a Francky qui est là.
Salut Francky. Et je continue à dire vraiment aux auditeurs qui nous écoutent en live, vous allez sur WhatsApp, vous envoyez votre message, votre numéro de téléphone au 06 1980 1990 et vous serez en direct avec nous. Salut Francky.
Oxo, la Terre. Oxo, la Terre. La Terre, Oxo.
Ah ouais, puis on a deux, trois tarés comme à l'époque. Hein. Ça, Bob, ça va te rappeler des
grosses choses. Ça change pas.
Le Star System est toujours là. Hein. Bien sûr, ça ne change pas. Mon Francky, alors, est-ce que tu fais partie des 60% des gens qui pensent qu'effectivement, il y a une vie extraterrestre
Alors, comme Bob l'a déjà évoqué, j'estime également que l'univers étant infini et exponentiel, s'il y a que nous, ça serait un bon gâchis d'espace, quand même.
C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, mais on n'a pas la preuve formelle qu'il y a.
Alors, ça, c'est le principe de base. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ne peux pas prouver que ça n'existe pas que ça existe pas.
Et c'est ce que je disais, c'est tout le problème.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que des fois, les gens se disent, moi, c'est ce que je me dis le premier, comment se fait-il qu'on n'arrive pas, qu'on voit autant de vidéos, qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui filme, il est tout seul, qu'il n'y a pas la caméra, que le mec témoigne,
aucun pays au monde a déclaré qu'il n'y avait pas d'extraterrestres. Aucun.
D'accord. Et ça date en plus.
Oui, et en fait, par contre, aucun a déclaré qu'ils existaient.
Ouais,
donc on est dans ni chaud ni froid, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, là, avec ce qui se passe, on s'aperçoit. Bah, t'as vu ce que dit Spielberg? Je sais pas si t'as vu
l'annonce
de Spielberg.
Ah oui, il paraît que ce film-là.
Demain,
quoi. Oui, il paraît que ce film-là va faire réfléchir aux gens que ça va.
Ça s'appelle Disclosure Day, le jour de la divulgation.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, Spielberg dit, quand j'ai réaliser Rencontre du troisième type, j'espérais que les extraterrestres existent. Aujourd'hui, je sais qu'ils existent. Il y croit. Donc, en fait, tu vois, c'est juste hallucinant. Il y a bon nombre de gens, mais il y a un film qu'il faut absolument voir qui s'appelle Disclosure, pas Disclosure Day, c'est Age of Disclosure qui est sorti cette année d'un documentariste américain qui s'appelle Dan Farah.
Ouais.
T'as 32 politiques et hommes de l'armée qui te disent on est visité, les extraterrestres existent. Avec des trucs comme ça, des militaires au Congrès, le bras droit de.
On les a vus témoigner d'ailleurs aux États-Unis, ils témoignent, ils disent maintenant. Avant ils se taisaient, maintenant ils osent parler parce que peut-être qu'avant ils avaient peur de parler, non?
Il y a des audiences tous les deux mois à peu près au Congrès américain.
D'accord.
Parce qu'en fait, il y a quand même une question de sécurité nationale. On est face à des objets qui se jouent des chasseurs américains qui valent des millions de dollars. Tu sais pas, ils font ce qu'ils veulent, les trucs.
Parce qu'on pourrait penser aussi, hein, Francky, je sais pas si c'est ton cas, mais il y en a qui pensent aussi que des fois, comme c'est en avance sur la technologie, que ça peut être des choses de l'armée qui cachent pour faire justement, continuer à faire courir, pour faire courir le bruit, tu vois, et laisser faire et laisser dire. C'est ça le truc aussi, c'est de savoir.
Parce que... on est en plein dedans. Bah, déjà, si j'appelle, c'est parce que c'est mon sujet. J'ai beaucoup de croyances. Voilà, enfin, après, je suis pas complotiste, je suis théoricien. Et je suis un peu tous ces différents sujets. Et au-delà de ça, je me pose des questions à l'âge que j'ai, quoi. Mmh. Et justement, moi, je crois vraiment un peu, peut-être comme Bob ou tant d'autres, un peu à la théorie des anciens astronautes.
Oui, j'adore.
C'est-à-dire,
en fait,
c'est-à-dire qu'en gros, ça serait, enfin moi, je suis allé voir loin. Ça serait nous humains qui auraient eu, dans un futur proche, j'espère, la possibilité de voyager dans le temps. Et en gros, il y a quand tu vois, on doit suivre un peu ce qui est, je dirais pas ce qui est écrit, mais en gros, ils sont là, ils nous surveillent, ils sont là depuis longtemps. Il y a un avancement depuis aussi la découverte de soi-disant Roswell, qui est un avancement sur les technologies, mais c'est hallucinant de voir des civilisations qui ont autant évolué dans la technologie, quoi.
Alors attends, depuis, je fais une petite pause. Parce que, attends, Franck, parce qu'on parle de Roswell, ça, c'est vrai que c'est un truc que tout le monde a entendu parler, le nom, on le connaît. Ça date des années, tu dis, 47, 49. Et tu dis qu'encore aujourd'hui, on traite encore le sujet. Moi, je pensais que c'était une escroquerie, ou c'était un truc
bidon. Ce qu'il faut
savoir
sur l'histoire de Roswell, c'est que quand le crash présumé arrive, où il n'y a aucun témoin, il ne faut pas délirer, hein, donc j'en parlais avec Jacques Vallée hier, il n'y a aucun témoin, mais on arrive sur le lieu du crash présumé où on récupère des choses. La première chose que fait l'armée, il y a un représentant de l'armée qui va dans une radio américaine et qui dit on a récupéré les débris d'une soucoupe volante.
Ça c'est vrai.
Ça fait le bruit. Sauf que le lendemain ils disent
on s'est trompé. Il a mal dit, vous m'avez mal compris.
J'avais tennis, j'étais fatigué, j'ai eu une tendinite, tu vois, j'ai pas pu. Ouais. Voilà. Et donc tout de suite le mythe a commencé à parler. Sauf que quelques semaines après.
Parce que c'était pas fait exprès,
on n'en parle plus. Quelques semaines après, c'est en 1980 que l'affaire revient avec un bouquin qui ressort. Je crois que l'auteur est Donald Schmitt. Et en fait, ça ressort en 1980 et le mec condense plein de trucs dans Roswell. Il met plein d'histoires, etc., dans l'histoire de Roswell. Et ça devient le mythe de Roswell. Mais Roswell, entre 47 et 80, il se passe pratiquement rien.
D'accord.
On n'en parle pas beaucoup. Et c'est en 1980. En plus, en 76, il y a eu quand même rencontre du troisième type. Ouais. Donc, si tu veux, tout le côté extraterrestre revient. Mais Roswell. Mais pour en revenir à ce que dit Franky sur les anciens astronautes, en fait, la théorie serait comme dans le film Prometheus de Ridley Scott, si tu veux, que la Terre aurait été ensemencée par une civilisation extraterrestre qui nous ressemble, et dont ces anciens astronautes, avec deux dieux, Enlil et Enki, qui se seraient battus pour la Terre, un qui était gentil, l'autre qui voulait nous asservir, celui qui a gagné, c'est celui qui était gentil, qui nous a permis de passer de l'homme à deux neurones à quatre neurones, tu vois ce que je veux dire. Et l'intelligence est arrivée, et donc on a commencé à avoir visiblement des hybridations entre des extraterrestres, c'est la théorie. Hein.
Ouais, c'est la théorie, peut se dire, voilà, ça peut être inventé de toutes pièces.
Après, il y a les tablettes sumériennes qui sont très, très, très anciennes, qui montrent des êtres un peu bizarres, étranges, s'accouplant avec des femmes humaines, etc. Ça, c'est la théorie des anciens astronautes. Après, il y a une autre théorie qui est très intéressante et à laquelle j'adhère vachement, c'est la théorie de ces engins sont pilotés par des gens qui, nos descendants. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer que le futur, en fait, les physiciens que je reçois te disent qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Pour comprendre ceux qui nous écoutent, je vais prendre un disque vinyle qu'on a passé maintes fois sur les radios. Quand, par exemple, le saphir est au milieu du disque et que tu entends la voix du chanteur, c'est le présent.
Oui.
Mais au début du disque, c'est le passé.
Oui.
Mais ils chantent encore dans le passé. Et ils chantent déjà dans le futur quand à la fin du disque. La voix de Mick Jagger sur un disque Rolling Stone, elle est déjà au passé, elle est au présent et elle est au futur. Parce que sur un disque vinyle, si tu mets ton saphir au début, c'est le présent.
Oui.
Quand il est au milieu, c'est le présent aussi. Et quand il est à la fin...
Mais on peut te le dire sur une cassette, sur un CD, sur un portefeuille,
Le côté sillon, si tu veux.
Oui, je comprends d'accord, je comprends l'image.
Et donc les gens te disent que... Les physiciens te disent, mais le temps n'existe pas.
Et nous, ça nous paraît fou quand on dit ça. On se dit, non, mais qu'est-ce qu'on raconte? C'est parce qu'on est...
Mais
trop...
ça me paraît fou aussi, hein.
Oui.
Mais j'aime bien l'idée. C'est presque plus intéressant que la civilisation qui vient de très loin. Tellement les distances sont grandes, t'as presque plus intérêt à adhérer au futur qui ont inventé le voyage dans le passé.
C'est incroyable.
Et qui viennent nous voir, qui disent faites pas péter les gars, pourquoi ils sont au-dessus des centrales nucléaires.
Et faites pas péter. Plein dedans. C'est exactement la même théorie que j'avais.
Je tiens juste à dire qu'on vient de se mettre en live sur TikTok également sur mon compte animateur radio. Donc si vous voulez bien sûr poser des questions, n'hésitez pas. Il y a Franck Cassis qui te demande si t'as fumé.
Ouais, bien sûr. Ah, mais moi je fume des herbes de Provence maintenant. Donc,
voilà. C'est vrai qu'il est dans le sud, il est bien. Qu'est-ce que tu voulais dire, Francky, là-dessus? Parce que évidemment, j'imagine que t'as beaucoup de choses à dire.
Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. C'est que dans toute cette parano, enfin, tu vois, les choses paranormales, voilà. Dans tout ce paranormal, en fait, ce qui est en fait super important, c'est qu'aussi c'est un business. Il faut vraiment vérifier les sources. Faut pas se faire avoir, tu vois. Il y a tellement de. Maintenant, il y a des gens, ils font ça avec l'IA, tu vois. Oh, j'ai filmé un OVNI pour faire un maximum de vues. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
D'ailleurs, c'est vrai que c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est que malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les vidéos.
Aujourd'hui, tu ne peux plus que te fier qu'aux vidéos déclassifiées par l'armée américaine ou l'armée française, etc. Tout ce qui est sur Internet, 80% peut être faké. Hein, donc voilà. Donc moi, je te fais un OVNI avec une
oui, c'est ça
une assiette à l'envers. Hein,
c'est incroyable.
Tu sais, il y a la photo la plus célèbre quand même d'OVNI, c'est celle du petit Réchin. C'est en Belgique en 1989, la vague belge. Et en fait, c'est un mec qui a truqué. Et pendant des années, elle a été.
On a cru que c'était vrai. Ouais.
C'est vrai.
Je reviens, je me permets parce que ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser les gens. Sur les 2-8% qui sont pas. Alors, on n'a pas assez développé là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec ces vidéos-là où pour l'instant, on n'arrive pas à savoir. Donc,
c'est
des
pas
gens
forcément
qui...
des vidéos. Hein. La plupart, d'ailleurs, c'est pas vidéo.
C'est des gens. Et donc, il y a des gens qui continuent à essayer de savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui.
Le souci, c'est qu'en fait, le budget du GEPAN en France, par exemple, est ridicule. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont deux dans un bureau et on a coupé la lumière.
Ils se défendent avec ce qu'ils peuvent.
Voilà. Donc ils n'ont pas les moyens vraiment d'enquêter. Souvent, t'as des enquêteurs privés qui vont chercher. Après, malheureusement, avec le temps, la recherche se fait beaucoup sur Internet et plus sur le terrain.
Ouais, d'accord.
Mais en même temps, le problème du phénomène OVNI, c'est que quand il est passé, il n'est pas reproductible. C'est-à-dire qu'en fait, quand un mec dit, voilà, j'ai vu une soucoupe volante atterrir, alors soit t'as des traces au sol, il y a des relevés qui sont faits. Par exemple, on parlait du cas de Valensole hier avec Jacques Vallée. Valensole, c'est en 65, Maurice Mas, et dans son champ un matin, et il voit ce qui ressemble à un ballon de rugby, à un avocat, tu vois ce que je veux dire. Et là, il voit deux êtres sortir, il est paralysé, sauf que quand ils repartent, on voit au sol des traces, on sait avec l'enfoncement de la terre, on sait le poids qu'il y a eu de l'objet. Il y a eu un vrai objet, il y a eu un trou dans la terre
qui pesait donc forcément très très lourd.
Voilà, exactement. Donc il s'est passé quelque chose. Mais c'est les seules choses que l'on a. Après, c'est que du déclaratif. 99,9% des témoignages d'OVNI, c'est que du déclaratif. Donc, on n'a pas.
Parce qu'il est déjà arrivé, par exemple, qu'il y a quelque chose qui se pose, et puis après, quand on vient dans le champ quelque part détecter, il me semble avoir entendu ça, qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir quelle est la matière.
Non, mais c'est surtout qu'il y a, par exemple, Maurice Mas, l'endroit où s'est posé l'engin, plus rien n'a poussé.
D'accord.
Tu vois, donc en fait, il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé quelque chose.
À Socorro, c'est pareil, c'est au Nouveau-Mexique, il y a un engin qui s'est crashé.
Ça arrive souvent au Mexique d'ailleurs qu'il se passe des choses.
Au Nouveau-Mexique, ouais. C'est absolument incroyable, aux États-Unis beaucoup. Et en fait, là, c'est un flic qui est en patrouille le soir et qui voit un engin et qui voit trois ou deux aides sortir du truc. Et souvent, les aides sont les mêmes, 1m20 à peu près, avec des grands yeux en amande, etc. Comme Spielberg les a représentés dans Rencontre du Troisième Type.
C'est ça qui est d'ailleurs assez dingue, hein, Franck. Et puis après, il y a d'autres témoignages qui vont arriver, c'est qu'il y a deux styles de témoignages. Il y a témoignage de monsieur et madame tout le monde, toi, moi, machin, ouais. Effectivement. Et puis après, il y a le témoignage, comme tu dis, de policiers, ça peut être des gendarmes, gens de l'armée, des gens qui sont des pilotes d'avion, des commandants de bord, donc des gens qui ont.
Apollo 17, quand même, il y a l'équipage
d'Apollo 17. Oui, c'est
17. Vrai. Oui. Une photo, il y a trois points lumineux en triangle qui est au-dessus, dans le ciel. Et là, c'est Apollo. Et l'armée et la NASA, pendant des années, a dit qu'il n'y avait rien.
Ouais.
Alors que là, c'est les mecs d'Apollo 17. Donc tu vois, le problème, c'est que si tu veux.
Ça a beaucoup plus d'impact,
ouais. Quand c'est des gens assermentés.
Bah, bien sûr.
Et Francky a raison, ce sont des. Il y a plus
ça, des commandants de bord ou des gens, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Au contraire, ils ont plus à danger à se faire. À se faire emmerder.
Aujourd'hui, ça a changé là aussi.
Ouais,
c'est-à-dire que les commandants de bord ont l'autorisation de parler, les militaires ont l'obligation de parler, alors qu'il y a 10 ans, c'était pas possible.
D'accord.
Aujourd'hui, on leur demande de parler.
Ça s'explique comment? Comment t'expliques ça, justement, maintenant?
Les choses évoluent.
D'accord, ok.
C'est
et ça, puis non. Le fait de déclassifier, forcément, maintenant tout le monde, monsieur et madame tout le monde est au courant de ça sur les réseaux sociaux, donc ça sert à plus à rien de le cacher. Quoi.
Bill Delson, l'ancien patron de la NASA, avait dit à ses employés, vous avez le droit d'étudier le phénomène OVNI, ce qui n'a été qui a été interdit pendant des années depuis que la NASA existe. La NASA a dit « je ne m'intéresse pas au phénomène OVNI ». Là, ils ont autorisé les chercheurs à travailler sur le sujet. Donc, on voit que les choses évoluent, les langues se délient. Mmh. Et puis, on a aujourd'hui de plus en plus de témoignages. Et puis, tu sais, tu parlais de monsieur, madame, tout le monde, mais il y a, je crois que c'est en 1967, parce que j'ai étudié tellement de cas que je sais plus forcément les dates, mais c'est un couple blanc-noir aux États-Unis. Donc à l'époque, vaut mieux fermer sa gueule quand t'as un couple mixte, hein, tu vois. D'accord. T'es pas aux États-Unis, c'est un peu chaud. Et ben eux déclarent avoir été lors d'un voyage interpellés et arrêtés par une soucoupe et avoir été embarqués dans la soucoupe.
Et ça, c'est encore un autre genre de style de témoignage. Quoi.
Ouais, c'est ce qu'on appelle de l'abduction, de l'enlèvement par extraterrestre.
D'accord.
Mais sauf que quand elle est revenue, Betty, elle a déclaré, elle a fait le schéma d'un système stellaire qu'on a retrouvé 30 ans plus tard.
Ah oui, d'accord.
Alors, elle avait eu l'info, elle a fait le truc.
Et donc ça, forcément, ça prête à confusion.
Elle ne l'a pas inventé parce que c'était Madame Tout-le-Monde.
Ouais, tu vois, d'accord.
Tu te dis, il y a des choses bizarres.
Si les auditeurs veulent réagir, évidemment, en direct sur TikTok, hein, vous n'hésitez pas, évidemment. Vous envoyez vos messages, on va les lire. Je vais demander peut-être à Juliana. Tiens, Juliana qui veut réagir. Merci, Francky, en tous les cas, d'être intervenu en direct. Il y a tellement de monde que
merci
on va essayer.
Vous.
Merci à
salut,
vous.
Ciao.
Bonne bon, mon ami. Il y a tellement de monde là ce soir qui veulent réagir avec Bob. Juliana.
Ouais, on a Eric qui nous demande j'ai une question, si c'est possible. Est-ce que Bob croit ou pas aux histoires d'hommes sur la Lune ? Ou comme dernièrement, autour de la Lune ?
Parce qu'il y a tout ça aussi, c'est vrai. Ouais.
Alors, ça, c'est la fameuse théorie du complot sur tout ça.
Est-ce que ça, t'en as pas mal. Ouais.
Alors, moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai reçu pas mal d'astronautes, on est allé sur la Lune. Ça, c'est mon intime conviction. Le seul truc qu'on a dû faire et que les Américains ont dû faire, il faut replacer le truc dans le contexte. On est en pleine guerre froide. C'est l'impérialisme américain contre l'ogre russe. En fait, les Russes ont devancé les Américains sur la conquête spatiale. Première sortie extravéhiculaire, premier satellite, etc. C'est les Russes.
Premier homme dans l'espace.
Voilà, l'Américain, Kennedy, veut marquer le coup. Je pense qu'ils ont back-upé un film. Je pense qu'ils ont fait un film. Au cas où la liaison se couperait, au cas où on enverrait ça pour pas passer comme pour des cons.
D'accord.
Voilà.
Mais la mission a réellement existé. Les gens sont vraiment allés en direction de la Lune. Voilà. C'est dit, si au moment donné il va poser le pied sur la Lune, ça bug.
Voilà.
On enregistre une vidéo.
Nous, on a sur le site btlv.fr un documentaire qui est à votre disposition en VOD si vous le voulez, qui s'appelle American Moon, qui a été fait par un journaliste italien qui s'appelle Massimo Mazzucco. Et lui est allé montrer toutes les anomalies du film, si tu veux.
Oui, parce que
il est allé voir Peter entre autres, un des grands photographes, Peter Lindbergh, qui était l'homme qui a fait toute la campagne de Benetton quand on était jeunes, tu sais.
Oui, bien
avec
sûr.
Des Blancs, des Noirs, des Chinois, etc. Eh bien, Peter Lindbergh, il dit...
Parodié par les inconnus.
Voilà. Et là, tu vois, il montre, Massimo Mazzucco lui montre une photo où t'as l'astronaute qui descend du LEM. Sauf que l'astronaute, il est dans l'ombre. Le soleil, il est à contre-jour. Donc, s'il n'y a pas un réflecteur pour l'éclairer, on ne le voit pas, il est dans le noir.
Ah oui.
Et là, on le voit.
Ah
donc,
oui.
Il dit, là, il y a quelque chose fatalement. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, toutes les photos et tout, elles ont peut-être été back-upées en plateau, etc.
Mais voilà. Absolument, il a bien mis le pied sur la Lune et il y a bien eu tout ça, évidemment.
En tout cas, moi, je le pense.
On a d'autres auditeurs, évidemment, qui veulent intervenir. N'hésitez pas, bien sûr, vous appelez hein, 06-1980-1990. Juliana.
Elle travaille.
Elle travaille, donc elle va prendre quelqu'un. Tiens, je vois juste, avant qu'on ait le prochain auditeur, il y avait aussi ce fameux témoignage, tu sais, c'était comment, c'était Bourdet, non, le journal, c'est le présentateur de TF1.
Jean-Claude Bourret,
oui. Pardon, excuse-moi. Oui. C'est qu'il avait témoigné, on avait passé l'extrait une fois où il disait que pendant un journal télévisé, ça, tu crois que c'est un peu.
Oui, je crois que lui, il a basculé des
obscurs de la France.
Il est vieux, hein.
Non, mais pour dire que des fois, non, mais c'est dingue parce que ça peut, non, mais ça peut enlever du crédit. C'est pour ça que je me permets d'en poser, c'est que lui avait dit que, lors d'un journal, il avait eu un mec en face, un homme politique. Il était persuadé que le mec lui était rentré dans la tête.
Mais il peut être persuadé de quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Mais de là à ce que ce soit vrai, le problème c'est que il y a toute l'ufologie. J'ai jamais vu un panier de crabes aussi important. L'ufologie, c'est l'étude des ovnis.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, t'as les vieux ufologues qui veulent pas qu'il y ait la nouvelle génération. Donc en fait, ils s'arrachent, ils essaient toujours d'être présents. À un moment donné. Jean-Claude, il est très gentil, mais il est âgé, il faut qu'il laisse la place aux jeunes, et il y a autre chose. Et pour exister, les mecs te sortent des bouquins avec des théories absolues, et le mec te dit « Oui, alors moi, au journal de 13h, j'ai reçu un extraterrestre. » Bon, quel crédit tu peux apporter à ça, quoi?
Rien.
Zéro. Et pour un journaliste, ça fait chier, quoi.
Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je voulais aborder le sujet, parce que.
Il décrédibilise complètement.
Voilà, c'est ça, ça casse un peu le.
Sauf que t'as des gens qui y croient, et que quand il fait une conférence, il va y avoir 6 milliards de personnes, quoi.
C'est ça, ouais.
Parce que c'est un sujet, attention. Les gens veulent pas la vérité. Ils veulent rêver. C'est très important de dire ça. C'est pas...
en gros, ils veulent rêver, c'est-à-dire qu'ils veulent croire à la vie extraterrestre, mais des gentils, qui viendraient, et non pas des méchants, comme dans certains films où ils viendraient tout détruire.
Bah, de toute façon, si jamais ils viennent nous voir, on a de grandes chances quand même d'avoir un problème. Parce que il faut savoir qu'ils viendraient sûrement avec des microbes dont on n'est pas, avec lesquels on ne pourrait pas se battre. Bah, tu vois, imagine que le système, déjà nous, on pollue l'espace, hein, quand on va sur la Lune, bah, tu vois, on pollue les choses. Imagine un mec qui vient d'une planète qui est à X milliers d'années-lumière. Il arrive, il a trouvé le trou noir, il passe, il arrive en deux secondes, et puis tout d'un coup, le mec, il a des bactéries partout.
Ouais, c'est vrai.
Et là, t'arrives, tu fais, on fait quoi, Gérard?
Qui est avec nous, Juliana, toujours en direct, on en profite encore pendant quelques minutes.
On a Raphaël qui est là.
On a Raphaël. Bonsoir Raphaël, après on va se mettre un petit son tranquille. Ça va Raphaël?
Ça va, et vous?
Bah oui, très très bien. Est-ce que tu fais partie des 60% des gens qui effectivement croient à la vie extraterrestre?
Oh bah ouais, complètement.
Évidemment, à fond. Bah évidemment.
Je suis un fou de ça, je suis un passionné.
Ah ouais, génial.
J'y crois énormément et je suis content d'être à l'antenne ce soir parce qu'il y a Bob qui est là. Mmh. Donc bonsoir Bob.
Bonsoir.
Et j'ai des questions à te poser en fait parce que je regarde beaucoup de choses sur Netflix, des documentaires. Mmh. Et je vous envoyais des vidéos d'ailleurs par l'intermédiaire de Juliana.
Ouais.
Et il y a des trucs comme, je ne sais pas si vous les avez vus les vidéos.
Non.
Mais il y a des trucs, enfin bon, des trucs. C'est surtout par rapport à l'armée, quoi.
Ouais.
Ça m'interpelle parce que il y a pas mal de mecs qui commencent à parler ou qui parlent depuis pas mal de temps déjà. Hein.
Ouais.
Dans les congrès, comme tu as dit tout à l'heure, au congrès et tout, il y a beaucoup d'anciens militaires qui parlent. Mmh. Et eux, alors tu dis qu'il y a pas de preuves, mais eux, ils ont vu des trucs, et ils ont filmé des choses.
Oui, mais ça prouve pas forcément que c'est que c'est forcément des extraterrestres.
C'est toujours pareil.
Ça peut être des phénomènes qu'on n'arrive pas encore à expliquer.
Le problème que l'on a avec les déclarations au Congrès américain, c'est qu'en fait, souvent, ils disent voilà, j'ai eu en main des documents de gens qui me disaient que les extraterrestres existaient. Donc le problème c'est quand on leur dit vous donnez-moi les preuves, on dit ah, c'est classé secret défense.
Ouais.
Donc c'est toujours un peu compliqué. Alors c'est vrai que il faut savoir que quand on déclare quelque chose au Congrès américain, on peut être accusé de parjure. C'est-à-dire que c'est le crime le plus important aux États-Unis. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mentir devant le Congrès américain.
Ouais.
Mais ces gens-là ne disent pas plus que David Grush, par
exemple. Donc tu prends un énorme danger en voulant inventer des choses ou en voulant dire des choses qui ne sont pas vraies.
Il y a un phénomène. Enfin, il y a un mec qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle David Grush, qui est un ancien Marines. Le mec dit voilà, je sais qu'on a récupéré sur des lieux de crash du matériel biologique. Biologique, ça veut dire quoi? C'est des êtres, ou un bras, ou un machin, un truc. Sauf que, où sont les preuves? Et là, il n'y en a pas.
Et c'est là où ça bloque à chaque fois. Quoi.
Mais c'est tout le problème que l'on a. Et en fait, on n'est que sur du déclaratif. Alors c'est vrai que quand c'est du déclaratif de Gérard et Ginette qui sont dans le doux, on a tendance à rigoler. Quand c'est David Grush ou Tim Gallaudet, à contre-amiral, qui dit « Oui, moi j'ai vu des choses étranges. Je pense que les gens venus d'ailleurs se cachent dans les océans, etc. parce que les engins vont sous l'eau et tout. Mmh. » Tu te dis « Je prends en considération ce témoignage. » Mais aujourd'hui, force est de constater, et moi ça fait 14 ans que je suis sur le sujet, j'ai pas eu entre les mains du matériel exogène, j'ai pas eu un extraterrestre à mon micro, et à chaque fois c'est...
Mais justement, tous les invités que t'as autour du micro qui viennent, qui témoignent là-dessus aussi, sont dans la même... comme toi.
En fait, le problème, c'est qu'il faut pas s'interdire de spéculer sur le sujet OVNI.
D'accord.
Il faut se dire, voilà, aujourd'hui, step by step, on avance petit à petit. Là, effectivement, les vidéos...
Et tu sens qu'en 14 ans, il y a eu une évolution, dans le sens où on a de plus en plus de preuves, et que de ce qui pouvait être un doute, une possibilité, ça devient une évidence.
Les gars, le 29 juin, on a la première audience à l'Assemblée nationale française sur les ovnis.
C'est-à-dire que ce 29 juin-là qui tombe là.
De mon vivant, je pensais même pas voir ça, parce que moi, quand j'ai commencé à parler de ça, on me disait le barré avec les extraterrestres.
Ah, t'avais dit que ça durait 6 mois.
Ouais, radio ovni, radio saucisson, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, ça fait 14 ans, et je reçois. Moi, j'ai eu à Villeuble, qui est quand même le chef astronomie d'Harvard, quoi. Quand il est dans son bureau, que le mec te file une heure avec le mec, il est en costard cravate, tu dis pas alors on a bouffé hier soir ou pas?
C'est sûr.
Tu fais du sérieux, tu vois, le mec il est astronome, il dirige un département complet à Harvard. Harvard c'est pas Vesoul, l'université de Vesoul, tu vois ce que je veux dire. Donc, et lui il travaille sur la vie extraterrestre et sur la recherche non pas biologique mais de civilisation.
Ouais.
Donc tu te dis qu'il y a un vrai intérêt pour le sujet qu'il n'y avait pas il y a 14 ans. D'accord. Donc on a vu vraiment une évolution.
Et quand on parlait justement, Raphaël, des civilisations, je crois que tu disais au sommaire que tu évoquais même les pharaons. Enfin, avant, on dit que tu vois, c'était une civilisation très avancée, des extraterrestres.
Ouais, mais ça, on peut tout imaginer.
Ouais, donc ça, par exemple, là-dessus aussi, c'est quoi la théorie qu'on dit que c'était impossible de pouvoir faire des choses pareilles avec...
Alors aujourd'hui, ils n'ont jamais réussi à reproduire les pyramides.
C'est ça,
alors,
ouais. Donc, ils essaient de comprendre de quelle manière on a pu réussir à le faire. Puis toute cette technologie qui sont, voilà, les pharaons, où est-ce qu'ils sont planqués, où est-ce que c'est...
La BBC a tenté de refaire une pyramide à une échelle plus petite. Ouais. Elle s'est cassée la gueule. Donc ils n'ont jamais réussi. Après, les pyramides, il n'y a pas de traces de suie, par exemple, dans les conduits. Donc ils ont visiblement construit la pyramide et creusé les tunnels qui sont à des pentes absolument incroyables. Et comment ils ont excavé la terre.
Bah, bien sûr.
Il y a plein de zones d'ombre. Après, il y a aussi d'autres théories, les géopolymères, où on dit qu'en fait, les pierres ont été reconstituées sur place. Il y a plein de théories. D'accord. Le problème, c'est qu'on est... Moi, j'adore, parce qu'en fait, ça s'arrête jamais.
Oui, c'est ça.
T'as,
ouais.
T'as toujours un chercheur qui va dire, ah, mais j'ai peut-être une théorie. Sauf qu'aujourd'hui, on a... Là, par exemple, moi, j'écris des articles tous les jours. On estime que la médecine égyptienne, on la recule de plusieurs milliers d'années, les connaissances, parce qu'on a trouvé des manuels qui expliquaient comment on faisait des petites... comment on soignait les gens, etc. La CIA, sur un document, montre qu'il y a peut-être un deuxième sphinx sous Gizeh, tu vois. Et des chercheurs au LIDAR travaillent sur les pyramides, et peut-être que sous la pyramide de Gizeh, il y a des colonnes qui pourraient descendre très très profond. T'imagines ? Et Corée, il y aurait peut-être une cité complète. Mais tout ça, ce sont des chercheurs qui travaillent. C'est-à-dire que moi, je ne l'invente pas. Faut savoir que ce sont des publications, généralement, à comité de lecture.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, comité de lecture, ça veut dire que c'est officiel. C'est-à-dire que toi, t'es thésard, par exemple, tu fais une thèse, et tu dis, moi j'ai ça, et si le comité de lecture, que ce soit Nature, ou Science, etc., valide ton truc, il le diffuse. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais en tout cas, c'est suffisamment crédible pour que ce soit publié.
D'accord.
Donc, voilà.
Et tout à l'heure, quand on parlait d'ailleurs, Raphaël, aussi, pour les auditeurs, des vidéos, c'est ça qui est dingue. Quand je dis que ça a changé en l'espace de quelques années, j'avais la sensation qu'avant, on nous disait qu'il fallait cacher ces vidéos-là pour ne pas faire peur au monde, parce que ça pouvait affoler tout le monde. Et maintenant, tu entends dire des gens qui disent limite, allez-y, parlez-en, diffusez de la... La communication, elle a changé. Ouais,
aujourd'hui, tout le monde est journaliste, tout le monde a un portable. Donc, si tu veux, aujourd'hui, tu peux pas cacher.
Non, mais le fait de déclassifier les vidéos, de dire allez-y, même ceux qui travaillent à la NASA, allez-y, si vous avez besoin d'en parler, vous pouvez le faire, alors qu'avant, il fallait tout cacher de peur d'affoler les gens.
Parce que je pense qu'il y a des strates, il y a des temporalités pour déclassifier des choses, pour parler. Et puis après, attention.
Et encore, elle n'a pas tout déclassifié, pas qu'il va encore continuer à déclassifier plein de documents.
Ça va arriver là. Ouais. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une loi sur l'information. On est au bout de 50 ans, on est obligé de déclassifier les dossiers. C'est obligatoire. N'a pas le droit. Il faut savoir que le premier amendement, c'est
ce qui s'est passé avec l'affaire Kennedy d'ailleurs.
Voilà, exactement. Donc, il faut savoir que les Américains peuvent pas aller contre cette déclassification. Après, ce qui a changé, c'est que pendant des années, les dossiers déclassifiés. Il faut savoir qu'il y a un bureau aux États-Unis qui s'appelle le CIF. Et le CIF, c'est là où il y a toutes les archives secrètes. Mais il te faut 20 000 ans pour essayer de découvrir un document, parce que c'est des rangées entières de trucs. Et quand tu ouvres le dossier, il est caviardé, c'est-à-dire qu'on a...
Ouais, c'est ce qu'on a fait pour l'affaire Einstein.
Voilà, donc à un moment donné, si tu veux...
On met des barres noires, on voit pas tout, il manque la moitié, quoi.
Et le CIF, même le président américain peut pas y aller.
Ah oui.
Parce qu'en fait, le président américain a moins de pouvoir que la NSA.
D'accord.
C'est-à-dire que si la NSA lui donne pas le pouvoir d'aller fouiller,
il peut pas y aller. Oui, parce qu'on pensait que moi, je pensais qu'il pouvait tout faire. Et
regardez tous les choix américains. Là, Jimmy Fallon qui a reçu, Bill Clinton qui a reçu.
Oui, ils savent rien.
Les mecs disent. On m'a dit que, mais j'ai pas pu aller voir.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que ça me surprenait à chaque fois d'entendre dire ça. Ouais. Comme s'il avait pas tous les pouvoirs. Effectivement, il les a pas tous.
Mais non.
Raphaël, quelque chose à rajouter ?
Ouais, bah en fait, t'as dû tous les voir, les documentaires sur Netflix.
Moi j'ai tout vu, moi. Donc,
voilà, t'as dû voir ce que je vous envoyais. Moi, c'est un document de 40 secondes où t'as un militaire, en fait, qui parle au Congrès. Mmh. Et puis tu vois ce qu'il a filmé, quoi, de son avion, quoi. Enfin, tu vois, donc bon, c'est un truc, c'est délirant, parce qu'après, ça passe au ralenti, tu vois vraiment l'objet, quoi.
Ouais, mais la qualité est pas suffisamment bonne pour qu'on puisse véritablement savoir ce que
alors,
c'est.
Ce qu'il faut savoir, là aussi c'est très important, parce que les gens, moi je me bats avec eux, disent on peut pas avoir une qualité aujourd'hui avec un portable, on arrive à avoir le trou du cul d'une vache. Non, tu prends ton portable, va ce soir essayer de filmer la nuit. et tu vas, plus tu vas grossir, plus ce sera pourri.
Oui.
Donc voilà. Et il faut savoir que les caméras qui sont embarquées sur les F-18 ou sur les Rafales, ce sont des caméras thermiques. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est pas des objets, ce sont des signatures thermiques. Pour que le missile puisse choper le cul de l'engin et de la signature thermique et éventuellement le canarder.
C'est pas de la vidéo comme...
C'est pas de la vidéo HD. Alors, ce qu'annonce par contre les Américains, c'est qu'on devrait avoir dans la prochaine déclassification des vidéos filmées par des caméras de cinéma, enfin des caméras de télévision et cinéma avec une meilleure qualité. Parce que pour l'instant, effectivement, à part l'étoile là qui est juste...
Oui, c'est celle-là dont on parle qui a été très...
Qui bouge, on dirait un médaillon, si tu veux.
Oui, c'est ça.
Celle-là, elle est très très étrange. La plupart, ce sont des points qui vont à droite, qui vont... Alors c'est vrai que les mouvements sont erratiques, on ne sait pas ce que ça fait, s'il y a quelqu'un dedans...
T'as une explication à ça, ou t'as eu des gens par rapport à ces trucs-là qui bougent très très vite, on a vu un point blanc là qui stagnait, puis d'un coup qui accélérait, donc à une vitesse vertigineuse.
Beaucoup pensent, de spécialistes pensent que ce sont des drones pilotés par de l'intelligence artificielle exogène.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas, un être humain ou un être normalement constitué ne peut pas accepter les jets de ces trucs-là. Donc, il faut savoir que nous, on envoie bien des sondes à l'autre bout de l'univers. Hubble est parti, tu vois, et il n'y a personne dedans. Donc on peut imaginer que s'il y a entité et civilisation exogène intelligente, ils envoient peut-être des sondes et que ces sondes-là sont peut-être des sondes extraterrestres qui ont juste plus de facultés que nous et que eux, comme nous, on dirige nos drones de leur planète, arrivent à diriger les trucs et voilà. Donc,
avec des cacahuètes.
Parce que il faut, si tu veux envisager la vie extraterrestre, il faut l'envisager avec une autre physique que la nôtre.
Ouais.
Parce que nous, on a une physique limitée. À un moment donné, on ne peut pas aller plus vite que la lumière, que la vitesse de la lumière. Eux, ils peuvent peut-être se dématérialiser, ce sont peut-être que des consciences. Parce qu'on imagine toujours la vie extraterrestre humanoïde. Mais on peut imaginer que ce sont que des consciences.
Oui, puis on la pense avec nos connaissances, de ce qu'on est capable de pouvoir subir. Enfin, disons, tu parlais des G, on peut prendre 7, 8, 9 G. Et que là, ça se trouve, c'est peut-être qu'il faut prendre 10 000 G ou 100 000 G. Ouais. Et que c'est quasiment impossible.
Et peut-être que même à l'intérieur du vaisseau, peut-être qu'ils se sont... ils ont enlevé les G. Peut-être qu'à l'intérieur, ils sont dans une poche particulière qui leur permet de... Mais on a ça sur Terre. Hein. On a la magnéto-hydrodynamique, c'est-à-dire qu'on a des missiles, on a des trucs que les sous-marins envoient, des torpilles.
Des torpilles, ouais.
Des torpilles qui sont russes, elles sont pas dans l'eau. Elles sont entourées d'une poche d'air. Et la torpille est dans l'air. En fait, c'est la poche d'air qui fend l'eau.
D'accord.
Et la torpille est... Non, mais c'est un truc de dingue.
Non, non, mais c'est pour ça qu'il faut...
On peut imaginer des choses beaucoup plus importantes venant d'ailleurs.
On va se faire une pause et puis on va se retrouver dans un instant. Dernière ligne droite avec Bob qui est avec nous, évidemment, pour parler. Alors, la vie est très sérieuse. On peut parler d'autres choses, hein, parce que toi, il y a plein de sujets que tu as l'air de maîtriser.
Le cul, tout ça,
Le cul, d'accord. Bah, le trou noir. Sur le trou noir.
À 60 ans, c'est extraterrestre.
Le trou noir. Et puis, vous pouvez continuer, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, animateur radio. Vous laissez vos messages. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Il y a des émissions qui sont préparées seconde par seconde, où tout est chronométré. Et puis, il y a la libre antenne de Max, où c'est juste 2 heures de total impro.
Merci d'écouter RMC Gold, c'est la Libre Antenne ce soir, émission spéciale un petit peu encore avec Bob Belanca qui nous fait le plaisir d'être avec nous, évidemment, animateur radio et maintenant depuis journaliste. Depuis combien de temps d'ailleurs t'as ta carte de journaliste?
Alors ça fait 14 ans que je suis directeur de publication.
Ouais, d'accord.
Mais comme j'étais gérant, si tu veux, jusqu'à ce que je vende BTLV, je ne pouvais pas prétendre à la carte de journaliste. Mais maintenant que j'ai vendu BTLV le 26 février dernier, mais que je reste toujours à la tête de BTLV, j'ai ma carte de journaliste.
Extraordinaire. Donc ça t'ouvre des portes sur d'autres choses ou ça apporte un plus? C'est juste
On paye pas.
On paye pas.
Les musées.
On paye pas les musées.
Voilà. Ben
ça, non, c'est... mais ça protège. En fait, si tu veux, c'est quand même.
Ça donne un autre statut. Puis voilà. Ça protège sur certains. Puis ça donne une crédibilité peut-être vis-à-vis d'autres personnes aussi.
Oui. Puis tu as accès. Tu peux. Tu vois, à l'Assemblée nationale, on peut y aller, etc. Tu vois, il y a des trucs quand t'es.
Alors tiens, rappelons ce qui va se passer le 29 juin, parce que là, j'ai découvert avec toi en direct. Et là, c'est une première.
Ça n'existait pas. C'est la première fois que l'Assemblée nationale va parler du phénomène OVNI, à l'instar du...
C'est-à-dire qu'ils vont faire venir des spécialistes, ouais. Ils vont les questionner.
Voilà, à l'instar du congrès américain qui fait ça.
Ça va être diffusé à la télé en intégralité, ça.
Alors, c'est...
Sur Sénat, à mon avis.
Je pense qu'il y aura une... Enfin, je ne sais pas si c'est dans le panier principal, hein, ouais. À l'Assemblée, mais dans tous les cas, c'est suivi par... j'ai vu que le site... il y avait un site qui allait suivre, là, mais pas un site américain, pas un site français.
D'accord, ok, très bien, on va suivre tout ça.
Je pense que Quotidien va y aller,
oui.
Que tous les... Parce que bien sûr, on fait toujours pouet-pouet, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains déclassifient, machin de ça, et nous, on met toujours la musique d'X-Files.
On a failli te la mettre.
Ou la soupe au chou, tu vois ce que je veux dire.
Ah, voilà, on nous l'a parlé tout à l'heure.
Bah oui, donc tu sais, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire
que tu peux ça, c'est rageant pour toi, parce que quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis,
tu passes au-dessus.
Hors dehors de l'anecdote d'X-Files et des machins, mais le fait qu'encore en France, voilà, il y ait deux pauvres becs dans un bureau, on montre rien, nous, on montre pas de vidéos, c'est pas des sujets qu'on traite.
Mais nous, c'est
on prend pas ça au sérieux. On a peur ici d'ailleurs en France.
Le pays de Descartes, le cartésianisme, c'est un truc français. Nous, on n'ose pas. Les Américains s'en foutent, ils y vont, ils parlent. Le premier amendement américain, c'est la liberté d'expression. Donc, c'est le premier amendement. Ils ont le droit de tout dire. Le mec a le droit de dire j'ai fait l'amour avec Michelle Obama hier soir.
Ouais. On peut parler du nazisme, on peut parler de Hitler, on peut parler de tout ça.
Tu peux mettre un uniforme nazi d'Hitler dans la rue, personne ne te dira rien.
Ouais.
Tu ne vas pas être forcément bien vu.
Mais tu as le droit de le faire.
Mais t'as le droit de le faire.
Légalement, on peut rien faire.
C'est le premier amendement. Donc, ils parlent beaucoup plus que nous. Nous, c'est la grande muette. Hein. Tu sais, l'armée, c'est la grande muette. On dit rien, etc. Et puis, on pense que tout cela, ça peut perturber le public. On aime.
Oui, c'est ce que je disais au début. Ça peut faire peur. Sauf que c'est tellement médiatisé. Puis les réseaux sociaux font que maintenant, il n'y a plus de frontières. Donc, ce qui se passait aux États-Unis il y a 30 ou 40 ans, si tu n'avais pas un pote américain, il te disait ce qui s'était passé à la télé. Aujourd'hui, tu peux aussi bien le savoir que tout le monde. Quels sont les autres pays qui sont vachement avancés comme ça?
Le Brésil.
L'Amérique latine, j'allais demander. Ouais.
Le Brésil.
Ouais.
Ils sont très, très.
Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas, Brésil, Argentine, tous ces endroits.
Il y a une histoire incroyable qui est celle de Colares, si tu veux.
C'est quoi, tu la racontes?
Bah oui, ils ont été tirés comme des moutons par des objets volants non identifiés. Et en fait, ils ont appelé ça les chupa chupa. C'est parce qu'en fait, les mecs recevaient, et il y a eu des gens qui ont été blessés, hein, recevaient des sortes de rayons, comme des rayons laser. Et en fait, ça les poussait, mais ça pompait quelque chose, ça faisait des prélèvements sur le corps. Donc voilà. Et Jacques Vallée, que j'ai reçu, donc, que j'ai enregistré hier, et l'armée américaine. Et l'armée brésilienne, pendant 3 mois, ils ont interdit le survol de tous les avions de ligne au-dessus de la zone, et ils ont enregistré. J'ai vu
parce que c'était classifié. Pourquoi? Pour y faire des recherches.
Ils cherchaient à filmer les objets qui venaient, etc.
Ah, ouais.
Et j'ai vu hier 2 photos de l'armée brésilienne. Où on voit clairement des secoues volantes, quoi.
D'accord.
Et donné par Jacques Vallée, donc c'est pas
ce que tu donc ce que t'as donné Jacques Vallée, ce que t'as pu voir, c'est des choses qui pour l'instant ne sont pas que le grand public ne peut pas voir.
Non, bah pour l'instant en tout cas c'est. Alors il avait sorti un bouquin qui s'appelle Confrontation dans les années 60 ou 70 où il y avait ces 2 photos, mais comme le livre a été confidentiel, personne n'a vu, mais ce sont des photos données à Jacques Vallée par les militaires brésiliens.
Est-ce qu'il y a des vidéos en France? Même que tu n'aurais pas vu, mais dont tu sais qu'il y a des. Comme aux États-Unis où tu dis là.
C'est-à-dire que le service secret américain, l'armée française, elle est comme tout le monde, elle protège son pays, elle protège son ciel, elle protège sa mer et ses navires. Bah, elle doit filmer des choses, sauf que les Américains sont toujours plus enclins à témoigner et à ouvrir leur gueule que les Français ont dit « Non, non, moi j'ai piscine. »
On a Mel qui est avec nous en direct sur RMC Gold. Bonsoir Mel, merci d'être là ma Mel, ça va ?
Mais bonsoir,
bonsoir à toutes et à tous. Mais ça va, ouais, je suis contente de vous entendre pour d'autres sujets. On va en parler plein de choses.
Je vais être attentif à tout ce qui se dit sur TikTok et je vais essayer de relever 2-3 questions. Donc, si vous voulez en poser à Bob, allez-y, n'hésitez pas. Mel, je t'écoute. D'ailleurs, est-ce que tu fais partie des 60% qui pensent qu'il y a une vie ailleurs?
Oui, je pense qu'il y a surtout, je pense que je fais partie des 100% de gens qui pensent qu'il y a des extraterrestres sur Terre.
Ah, carrément.
Bah oui, non, mais c'est-à-dire des gens ouf, quoi. Tu vois, des gens pas nets, quoi.
Ah oui,
c'est
bah, ça pour moi, l'extraterrestre. Je fais partie de ces gens-là, moi. Alors.
Bah justement, toi, tu es notre extraterrestre préféré, bien évidemment, quoi.
Oui, ça fait longtemps.
Donc, je vous appelais ce soir parce qu'en fait, j'ai entendu Bob, que je salue évidemment, qui parlait de Jean-Pierre Luminet, qui est un astronome, si je ne me trompe pas.
Astrophysicien, ouais.
Astrophysicien, merci. Et en fait, est-ce que tu connais le lien entre Van Gogh et Jean-Pierre Luminet?
Mais bien évidemment, parce que j'ai fait une émission dessus avec. Parce qu'en fait,
c'est quoi?
En fait,
mais c'est bien parce que du coup, tu vas contredire ce que je dis ou bien affirmer, voire même donner des informations
supplémentaires. C'est quoi l'histoire?
En fait, Van Gogh, il a peint en 1889 une toile qui s'appelle La Nuit étoilée. Et Jean-Pierre Luminet, avec un logiciel, il a essayé de remettre précisément les 11 étoiles du tableau, de la toile, sur un logiciel. Et en fait, il s'est aperçu que le ciel de La Nuit étoilée qui a été peint par Van Gogh correspond exactement au ciel du 25 mai 1889 à 4h40 du matin. Or, c'est la même année où il a peint cette toile. Alors après, et c'est là où je te rejoins, Bob, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une certitude? On est beaucoup dans les hypothèses. C'est ça qui est intéressant.
Qu'est-ce qui se dit là-dessus?
Tu sais ce qu'on dit du hasard? Einstein, je crois que c'est Einstein qui disait le hasard, c'est Dieu qui l'a inventé pour faire croire qu'il n'existait pas.
Ah oui.
Donc voilà, tu vois. Et j'aime beaucoup.
Pourquoi il n'y a pas de hasard là-dessus?
Et puis d'ailleurs, Jean-Pierre est suffisamment sérieux dans ses recherches. Et effectivement, on a fait une émission sur. Parce que c'est un passionné d'art, Jean-Pierre Luminet. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Et effectivement, avec ce logiciel, on peut savoir quelle était la nuit et si Van Gogh a bien peint la nuit de cette année-là. Et effectivement, donc, je trouve ça intéressant. Et en plus, Jean-Pierre est arlésien. Et ce doc de Arles. Et ce Van Gogh a peint la nuit étoilée à Arles.
Eh bien, il y a bien. Je ne connaissais pas cette histoire. Donc, ça nous renvoie sur la peinture et d'aller revisionner tout ça. Redonne-nous le nom de la peinture.
La nuit étoilée.
La nuit étoilée.
C'est l'un des plus célèbres.
Ouais. Non, mais je n'ai pas fait attention aux détails qu'il peut y avoir dessus.
Lui, ce qui est génial, c'est que le mec est astrophysicien. Donc, il voit le ciel. Il dit est-ce qu'il l'a inventé ou est-ce que le ciel était vraiment comme ça? Et en fait, le ciel était vraiment comme ça.
D'accord.
C'est
ouf.
Complètement fou. On avait le droit de parler d'autres sujets, on a dit qu'on pouvait même parler de cul, c'est ça?
Ouais,
tu peux. Okay.
Du coup, j'avais une question tout à l'heure, tu as parlé
changé.
Du kiff, ouais. Est-ce que c'est le sillon interfécié ou pas?
Ouais, c'est ça aussi. Tu peux l'imaginer. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'en parle sur BTLV, je dis le sif. Si quelqu'un sait ce que c'est, véritablement, ça va rigoler. Donc c'est assez marrant. Donc voilà.
Bah, c'est bien. Bah écoute, est-ce que tu as vu quelques-unes des vidéos justement qui ont été déclassifiées par les Américains? Tu les as vues sur les réseaux sociaux, Mel, ou pas?
Non, pas du tout. Pour l'instant, je ne me suis pas intéressée.
Ah non, mais franchement, il y en a deux, trois, je ne sais pas, autour de l'équipe, Gabi, Yanis ou Julien, vous les avez vus, ces vidéos qui traînent d'ailleurs sur TikTok
un peu partout. Mais j'ai vu quelques photos, ouais.
C'est assez intriguant quand même. Il y en a deux, trois quand même qui sont. C'est assez troublant. Merci Mel, je t'embrasse très fort, bisous.
Je vous embrasse très fort aussi, merci. Salut, pour cette émission très intéressante, bisous.
Bisous. Juste, Juliana, encore deux, trois minutes. Je crois que tu voulais. Il y avait une question peut-être qui avait été posée sur WhatsApp.
Ouais, on a Eric qui nous demande est-ce que Bob sait ou a des infos sur ce qu'il y a dans la fameuse zone 51.
Oh là là, là là. Alors, est-ce que tu peux rappeler la zone 51 aux États-Unis, évidemment?
C'est le Nouveau-Mexique, c'est un endroit qui est une base secrète, qui a été officiellement reconnue il n'y a pas si longtemps. En fait, tout le monde savait qu'elle existait, mais le gouvernement américain l'a reconnue il n'y a pas si longtemps, parce que j'avais fait un article dessus, mais je ne sais pas.
Pourquoi ils ont mis autant de temps? C'était pour, c'est pareil
parce
pour
que, tu sais, c'est une base secrète, c'est énorme au Nouveau-Mexique, c'est énorme, c'est des kilomètres et des kilomètres de barbelés, tu n'as pas le droit de rentrer dedans. C'est une base où ça a été vachement connu, parce qu'en fait, il y a un mec qui s'appelle Bob Lazar, qui dit avoir travaillé, c'était dans les années 80, sur cette zone 51, et qu'il avait travaillé sur le hangar numéro 3, je crois, je peux peut-être me tromper, excusez-moi, où il avait des soucoupes volantes et des objets et des entités venues d'ailleurs dans ces hangars. Donc ça a fait beaucoup parler, et il faut savoir que toute cette zone-là, c'est là où il y a eu les premiers essais nucléaires en 45, White Sands, etc. Donc en fait, c'est une zone très sensible où tous les black programs américains ont été élaborés. C'est-à-dire que les black programs, ce sont des mais comme on a en France, en France, l'armée fait des prototypes. Les black programs, c'est souvent des prototypes. Alors on a vu beaucoup voler de prototypes qui avaient des allures d'ovnis, puisque c'était en triangle, etc. Donc les gens les ont parfois confondu avec des ovnis. Donc tout ça a alimenté le fantasme, etc. Bon, la base secrète 51, la zone 51, elle existe. Après, ce qu'il y a dedans, je ne suis jamais allé voir. Mais après, moi, j'ai fait des émissions sur des soi-disant bases souterraines, où il y a là des kilomètres qui descendent avec des extraterrestres, des trucs. Je ne sais pas.
Ouais. Mais non, mais la zone 51, c'est vrai que c'est resté totalement culte depuis toujours. Quoi.
Ouais, et ça sera toujours.
Et ça le sera toujours, d'ailleurs. C'est vrai qu'on pense que là-bas, effectivement, il y a peut-être des débris de soucoupes volantes.
On peut tout imaginer.
Et pourquoi ils ont mis autant de temps, d'ailleurs? Tu as une raison, tu as une explication de pourquoi, par exemple, du jour au lendemain, ok, oui, effectivement, elle existe. Pourquoi ils ont voulu séparer? C'est pour garder
un peu. Parce que la culture de secret américaine, elle existe. Ouais. Tu sais, il y a la NSA, il y a toutes les agences de renseignement. Ouais. Déjà, il faut savoir que c'est un pays où les agences de renseignement ne se parlent pas. C'est malheureusement ce qui a conduit au massacre du 11 septembre.
Exactement.
Tu vois, parce que le FBI et la CIA ne se parlaient pas. Et en fait, la NSA, qui est et la CIA, qui sont les agences les plus comment dire, manichéennes, je dirais, se parlent pas et gardent secret. C'est-à-dire que là, le Pentagone, c'est à l'initiative du Pentagone qu'aujourd'hui, du Congrès américain, que le Pentagone déclassifie les vidéos.
D'accord.
Et se sont dit, maintenant, ça suffit, suite au 11 septembre d'ailleurs. On ne peut plus revivre ça. S'il y a un problème de sécurité nationale, il faut que toutes les agences de renseignement donnent les informations et qu'on évite.
Qu'elles puissent se recouper pour voir si c'est vrai, pour éviter ce qui s'est passé.
Mais aujourd'hui encore, je vais te donner ça, mais il y a encore trois trucs qui
doivent. Ça existe en France, pas l'équivalent, mais quelque chose.
T'es pas
comme...
très loin, là. T'as quand même le FBI français qui est pas loin.
Oui, juste en face.
Juste en face.
C'est vrai qu'on a. Nous, juste à côté, c'est vrai. D'où
d'ailleurs.
C'est le bâtiment d'à côté. Les caméras qui tournent, c'est eux. C'est pas pour enregistrer, pour mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il existerait un endroit où est-ce qu'il y a des endroits un peu comme la zone là, comme aux États-Unis, en France ou pas,
sûr.
Ou en Europe
Il y avait un truc. Comment il s'appelle? C'était. Il y avait un endroit, le plateau d'Albion, par exemple.
Oui.
Le plateau d'Albion, là, c'était un endroit secret où il y avait des essais nucléaires, etc.
D'accord.
On fomentait. Mais bien sûr qu'il y a des endroits secrets en France où on fait des choses. C'est obligatoire. On ne peut pas être la cinquième ou sixième puissance mondiale.
Sept, même,
on
a septième
aujourd'hui.
Ça ne fait que se dégrader, Bob. le temps tourne.
On va
le
avoir
monde.
Des pistolets à eau bientôt.
C'est ça, oui.
On ne peut pas être dans les dix puissances les plus importantes et pas avoir des endroits secrets où on teste
bien
des
sûr,
choses.
Bien sûr, évidemment. Évidemment.
Et puis n'oublions pas qu'on a des endroits ailleurs dans le monde.
Ah oui,
il faut savoir que les fusées françaises décollent de Guyane.
Bien sûr.
Donc on peut faire sur d'autres endroits.
Et beaucoup plus discret. Évidemment.
Et Chirac avait fait les derniers fusées nucléaires dans le Pacifique. Tu vois.
Exactement, c'est vrai. Un dernier auditeur pour cette soirée avec Bob, Juliana, s'il y en a encore un dernier, peut-être. Oui, parce
pas
que
là,
c'est
il
quand
est même. Pas là encore.
Oh, tu vas l'appeler alors, très bien. En dehors d'ailleurs de la vie extraterrestre, toujours sur les sujets que tu traites, il y avait le paranormal, toutes ces choses-là.
Ouais.
Quels sont les sujets qui finalement fonctionnent le mieux? Les ovnis, j'imagine que ça doit cartonner.
Alors, les ovnis, c'est très masculin.
Ouais. Ah oui.
Et tout ce qui est paranormal, spiritualité, c'est très féminin.
Ah, c'est dingue ça.
Donc, les femmes sont très enclines à croire à la vie après la mort, au voyage astral, à tout ce qui est décorporation, tout ce qui est médiumnité, etc. Les garçons, c'est pyramide, ovni, secret. Tu vois,
d'accord.
Ce que dire, complot, etc. Donc, c'est très marqué comme ça. Bien que moi, j'arrive maintenant à les ramener un peu à ça. Mais.
Et quels sont les sujets que les gens préfèrent à chaque fois traiter
À chaque fois, c'est les ovnis ou le paranormal. Le paranormal avec les fantômes, les artefacts, tous les trucs, les expériences de mort imminente quand les gens voient la lumière, etc.
Ouais,
tous ces trucs-là, les états modifiés de conscience, le voyage astral, les gens qui sortent de leur corps.
Oui, par exemple, une opération et qui pensent flotter au-dessus de leur corps et qui voient quasiment l'opération.
Alors, ils ne pensent pas, ils le font.
Et ils le font.
Et ils le font parce qu'on a quand même des témoignages de gens. Là, tu vois, j'étais.
Oui, qui sont capables de décrire vraiment.
Tout à l'heure, j'ai interviewé le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin réanimateur et anesthésiste. On est dans un état de mort clinique et là, les gens voient des choses. Ils racontent leur opération. Il y a une femme aveugle qui a donné qu'a trouvé les mecs avaient volé dans son casier. Elle était aveugle. Voilà, elle a dit c'est ces deux mecs là, ils ont trouvé ces bijoux dans le casier.
Ouais, donc là il y a pas de
hasard, tu vois ce que je veux dire.
Donc, d'accord. Voilà. Bon, ça c'est surprenant comme ça, c'est scotchant. Juliana, dernière auditeur auditrice.
Non, c'était une petite question qu'on a sur WhatsApp. Vas-y. On a Clémence qui nous demande ce que c'est un artefact.
Un artefact.
C'est un mot qui l'emploie beaucoup, mais. Que...
Alors en fait, artefact, l'archéologie l'utilise, mais c'est les houppartes exactement. En fait, l'artefact c'est un objet archéologique qu'on a retrouvé. Voilà, c'est un artefact. Et puis, il y a ce qu'on appelle les houppartes. C'est-à-dire que c'est un artefact qui a été trouvé dans un endroit où il ne devrait pas se trouver. C'est marrant que tu parles ça, parce que j'ai posté un article hier là-dessus. En fait, il y a, par exemple, le marteau de Londres. Londres, Texas, aux États-Unis. C'est un marteau moderne qui a été retrouvé dans une strate géologique qui a 500 000 ans. Donc on se dit comment ce marteau moderne a pu se retrouver, tu vois, fossilisé dans cette strate. Il y a une chaîne en or qui aurait été retrouvée dans une entre deux trucs de charbon. Donc ça, ce sont des objets qui ont été trouvés dans des endroits où ils ne devraient pas
être trouvés. D'accord. Voilà. Okay.
Ce qu'on appelle les artefacts et les houppartes surtout.
Très bien. Bah écoute, ça a été un bonheur. Bravo, hein, putain. Mais il est à fond, putain. On a fait 1h10, c'était absolument extraordinaire. Merci, c'est génial. Alors, tu vas nous donner, alors je voulais quand même, avant de se quitter, donner quelques infos importantes, parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont nous le demander. Où est-ce qu'on peut, comment on fait maintenant si on veut retrouver tes vidéos, tes interviews, la chaîne de télé, radio, etc.
BTLV.fr, c'est la chaîne par abonnement. C'est la plateforme, à l'instar de Netflix.
Donc tu t'abonnes et après...
T'as accès à tout. Et après, t'as des émissions qui sont en clair sur YouTube. Tu vas sur la chaîne YouTube BTLV et t'as des livres.
Moi, je t'ai vu souvent là-dessus.
Voilà. Donc, voilà.
D'accord. Est-ce que tu peux nous conseiller maintenant? Est-ce qu'il y a un ou deux livres que tu nous conseillerais pour les gens qui nous écoutent? Si ça te vient à l'esprit comme ça, c'est une question... et documentaire alors, éventuellement à voir.
Des livres que j'ai dites.
Bah voilà. Oui, bien sûr.
Voilà. Des Templiers aux prières de Sion, c'est notre best-seller cette année de Jean-Patrick Portal. Donc là, c'est une vraie enquête des Templiers aux prières de Sion. Prières de Sion est une société secrète.
Bien sûr.
Donc très, très intéressant. Il y a les dossiers de l'impossible de Geoffrey Clostrio, les dossiers inexpliqués de Jocelyn Esqueller. Et puis, alors, plein de, sur le site, vous avez tous les livres sur les ovnis d'Egon Kragel, qui est un spécialiste qui sort dans la collection BTLV.
Et tu nous avais tout à l'heure donné rapidement un documentaire ou deux, peut-être à visiter. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver, mais... Alors,
sur Prime, il y a Age of Disclosure de Dan Farah, incroyable. Et puis, je vous invite demain à aller voir quand même Disclosure Day de Steven
Spielberg. Ça sort demain. Hein. Bah, ouais. Tu l'as vu, toi t'as...
Non, j'ai pas eu la chance.
C'est parce que c'est pas sorti aux États-Unis déjà.
Il
n'y
a que les critiques américaines qui ont pu le voir.
Et alors, et qu'est-ce qu'ils en disent?
C'est un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre.
Un chef-d'œuvre. Ils disent que c'est le meilleur film de Spielberg depuis ces 20 dernières années. Et Emily Blunt, qui est l'actrice principale, fait une prestation incroyable.
Juste pour ça, parce que comme il a traité ce sujet-là, parce qu'il aime bien ça, mais.
Il aime plus que ça. Il est à fond dedans.
Il est à fond dedans, c'est pour ça qu'il a voulu traiter ce sujet. Alors, c'est ça.
C'est le cinquième film qu'il fait sur les ovnis, quand même.
C'est vrai. Ouais. Celui-ci, c'est celui. C'est vrai que j'avais entendu les critiques qui disaient attention, quand vous allez voir ce film-là, vous allez
oui,
sortir.
Parce que je pense que, il dit pas que les extraterrestres existent. Il dit qu'on nous cache la vérité. Voilà. C'est la divulgation. Et ça, c'est intéressant.
Très bien. Merci, Bob, d'être venu dans les studios encore d'RMC Gold. C'était un bonheur. Nous, on va se retrouver dans quelques minutes. Et on fait une petite pause d'une minute. On fait une pause et puis après, un peu de son, c'est ça? Ça te va?
C'est ça.
Allez, c'est parti sur RMC Gold. Let's go.
La libre antenne de Max, du lundi au jeudi, 22h minuit sur RMC Gold.